à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Margot Delon et je vais vous parler de mon travail sur les trajectoires des enfants des bidonvilles et cités de transit de l'après-guerre en France. J'ai travaillé sur ce sujet pendant 6 ans, dans le cadre d'un master puis d'une thèse de sociologie à l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po. J'ai reçu le prix de recherche 2017 de la Fondation Caritas pour ce travail et j'espère que cela participera à changer le regard sur cette histoire, sur les bidonvilles et plus généralement sur la pauvreté. J'aurais en effet préféré que l'histoire ne se répète pas. La reconstitution des bidonvilles habitées par des migrants d'Europe de l'Est au milieu des années 2000, et plus récemment par des réfugiés, montre en effet que nos sociétés n'ont pas été capables de faire disparaître le mal-logement et l'habitat précaire, comme on pouvait le croire dans les années 1970. En engageant cette recherche, j'ai voulu étudier ce sujet en décentrant le regard qu'on avait l'habitude d'y porter. Il existe, de fait, une tendance importante à ne voir le scandale du mal-logement que par les lieux qui l'incarnent. Une fois que ces derniers sont détruits, on oublie ou on y pense moins. Et pourtant, les facteurs structurels à l'origine de la pauvreté ne peuvent pas disparaître aussi rapidement qu'un bulldozer met en pièce une baraque, et les personnes qui ont habité dans les bidonvilles ne s'effacent pas non plus. Et je pense que cette forme d'amnésie est d'autant plus dommageable que c'est principalement sur le long terme que l'on est le mieux capable de comprendre les dynamiques intergénérationnelles de reproduction et de sortie de la pauvreté. Enquêter sur les enfants aujourd'hui adultes des bidonvilles des années 60, qui ont concerné des dizaines de milliers d'habitants d'origine immigrée, participe à ce projet. Donc je me suis posé 2 questions relativement simples. Quelles expériences les enfants ont-ils fait des bidonvilles ? Et que sont-ils ensuite devenus, avec l'idée qu'en fonction de leurs expériences, ils n'avaient pas connu les mêmes trajectoires. Alors, avant d'exposer les résultats de cette recherche, je voudrais dire quelques mots de la façon dont ils ont été obtenus. Le choix des terrains tout d'abord, j'ai retenu l'étude de 2 cas, Nanterre et Champigny-sur-Marne, qui sont 2 villes de la périphérie parisienne, dans lesquelles il y a eu les plus grands bidonvilles de l'époque. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que ces bidonvilles étaient habités par des migrants de plusieurs origines, algériens, marocains et portugais pour la plupart. C'est donc une double comparaison que j'ai menée entre des villes, soit quelles sont les ressemblances et les différences entre les bidonvilles de Nanterre et de Champigny, et entre des populations, soit est-ce que, à l'intérieur de ces bidonvilles, les expériences des habitants d'origine algérienne, marocaine et portugaise diffèrent beaucoup et pourquoi ? Il a ensuite fallu retrouver des personnes qui avaient passé une partie importante de leur enfance ou de leur adolescence dans ces bidonvilles. En prenant appui sur plusieurs premiers contacts dans les 2 villes, je suis parvenue à interviewer 50 anciens enfants des bidonvilles. Et en complément des récits approfondis que j'ai recueillis auprès d'eux, j'ai conduit 2 observations, j'ai collecté de nombreuses archives et j'ai exploité une enquête de statistiques nationales, trajectoire et origine. À présent, je voudrais évoquer les principaux résultats de cette recherche. Tout d'abord, l'enquête a montré que les enfants des bidonvilles avaient connu une grande diversité de parcours. Il y a des ouvriers, un barman, des consultants, des personnes qui ne travaillent pas, des employés de bureau, des artisans et chefs d'entreprise du bâtiment, des enseignants. Il y a des personnes qui habitent en HLM, d'autres qui sont locataires du privé ou propriétaires. Certains se sont arrêtés très tôt dans les études, d'autres, certes plus rares, ont poursuivi jusqu'au doctorat. Il y a des couples mariés, des divorcés. Pour le dire autrement, la pauvreté n'a pas d'effet homogène sur les trajectoires. Ce n'est pas parce que des enfants et des adolescents vivent dans un même bidonville qu'ils vont tous avoir le même avenir. Et ma thèse a montré qu'ils avaient connu 4 grands types de trajectoires, des trajectoires de continuité des inégalités, des trajectoires de petite promotion locale, des trajectoires de reproduction de l'isolement et des trajectoires de forte ascension sociale. Cette diversité de trajectoires tient au fait que les enfants et les adolescents vivent en fait rarement la même chose dans les bidonvilles. Les différences de vécu ont été très nettes dans les entretiens. Donc, par exemple, Nestor, un chef de chantier de 61 ans, d'origine portugaise, et qui a grandi à Champigny, me dit à propos de son expérience dans le bidonville « Il n'y a jamais eu de difficulté. C'est pour ça que je dis « Je ne peux garder que de très bons souvenirs. Il n'y avait pas de contraintes, on partait à l'école, nos parents travaillaient, C'était pour ainsi dire la même vie qu'aujourd'hui. Une autre ancienne habitante de Champigny, Madalena, enseignante de 56 ans d'origine portugaise, propriétaire également, insiste pourtant sur des conditions de vie extrêmement difficiles et conclut en me disant « On n'oublie rien, c'est pas possible ». À Nanterre, c'est pareil. Hakim, un colleur d'affiches de 52 ans, locataire HLM d'origine algérienne, m'explique que « Le bidonville, j'ai des images à vie, ah oui ». L'hiver, c'était très dur, très dur. Quand tu as goûté à la misère, tu as l'impression qu'elle est toujours derrière toi. À l'inverse, Anissa, attachée territoriale de 59 ans, locataire HLM et d'origine algérienne, parle d'une période heureuse, dans ce qu'elle décrit comme une petite maisonnette avec un potager. Comment expliquer ces quatre expériences très différentes de Nestor et Madalena à Champigny et de Hakim et Anissa à Nanterre, alors que ces personnes étaient toutes au même moment dans les bidonvilles? Alors, il y a d'abord, et c'est un résultat qui n'est pas nouveau, le rôle des ressources économiques, sociales et culturelles des parents, ainsi que de leurs aspirations et leurs projets migratoires. Si Nestor a une vision si positive du bidonville, c'est qu'il était en fait un peu mieux logé que les autres. Ses parents avaient gagné un peu d'argent dans le Massif central avant d'arriver à Champigny au début des années 50. Ce petit capital leur a permis d'acheter, souvent de façon non légale, un terrain et d'y construire une baraque en dur. Autour de cette baraque, ils en ont construit d'autres, qui ont été loués à des habitants plus précaires et arrivés plus tardivement. Il faut aussi préciser que pour les parents de Nestor, la venue en France était liée à un projet de retour collectif au Portugal, avec l'idée d'économiser mieux pour vivre là-bas et ainsi sortir de la pauvreté très forte que connaissait le monde rural sous la dictature de Salazar. Par contraste, les parents de Madalena sont arrivés plus tard et dans de moins bonnes conditions. Ils étaient locataires et ils ont connu la période la plus surpeuplée des bidonvilles. Et pour eux, la migration représentait un déclassement. Le père de Madalena était en effet boulanger, il avait travaillé dans les villes et sa mère appartenait à ce que Madalena appelle la petite bourgeoisie du village. Vivre dans un bidonville, dans des conditions aussi misérables, a été d'autant plus durement ressenti qu'ils avaient pour leurs enfants des espoirs de mobilité sociale en France. Ils les ont donc encouragés à poursuivre des études longues, plutôt qu'à commencer à travailler tôt, à la différence de Nestor qui a été engagé à 16 ans sur des chantiers avec son oncle. En plus de ces facteurs qui relèvent de la socialisation familiale, mon travail met en avant l'importance des effets des politiques publiques de l'immigration et de l'habitat précaire. Le traitement très inégal vécu par des groupes, les Algériens, les Marocains et les Portugais, et par des villes, Nanterre et Champigny en l'occurrence, est un déterminant central des expériences dans les bidonvilles et des parcours ultérieurs des enfants. Les politiques mises en place ont été marquées par la question algérienne et plus largement par le contexte de décolonisation. L'augmentation des migrations en provenance d'Algérie après la Seconde Guerre mondiale est ainsi jugée très préoccupante par les hauts fonctionnaires qui sont en charge de l'immigration. Alors que les Algériens sont considérés comme des citoyens français depuis 1946, sont familiers avec la langue, sont habitués aux institutions françaises, ils ne sont pas considérés comme assimilables. Et en raison de ces préjugés, les hauts fonctionnaires font tout pour favoriser la venue de migrants européens, les Portugais en particulier. Le paradoxe, c'est qu'en fait, on ne sait pas grand-chose du Portugal à cette époque, mais on se dit que les Portugais vont s'intégrer dans le creuset français, comme les Polonais et les Italiens avant eux. Pour les Algériens en tout cas, les choses ne s'améliorent pas bien sûr avec la guerre d'Algérie, qui éclate en 1954. Elles empirent en particulier pour les habitants des bidonvilles, qui se développent à partir des années 50, pour pallier le manque de logement. Pendant toute la durée du conflit, les bidonvilles, en particulier ceux de Nanterre, vont être investis par les mouvements indépendantistes comme le FLN, le Front de Libération Nationale, mais aussi par la police qui harcèle les habitants. Ces derniers risquent à tout moment d'être perquisitionnés, arrêtés et torturés. Je ne m'étends pas sur la répression des manifestations lors du 17 octobre 1961, mais c'est une date dont toutes les familles que j'ai rencontrées se souviennent et toutes connaissent quelqu'un qui a été arrêté ou qui a disparu. Les habitants algériens ne peuvent que très peu construire ou améliorer leurs baraques. Ils sont donc particulièrement exposés au risque d'incendie, au froid et à la propagation de maladies. Pour résumer, pour les pouvoirs publics des années 50, les bidonvilles sont d'abord un problème relié au maintien de l'ordre colonial. Dans les années 60, ce sera assez différent, notamment dans certains bidonvilles portugais, comme celui de Champigny, qui sont aménagés, où on installe dans certaines zones l'eau et l'électricité. Hakim naît par exemple en 1963 à Nanterre. Son père est venu pour la première fois en France métropolitaine en 1938. Il a été mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et a combattu pour la France avant d'occuper divers emplois, mineur, cheminot, et d'être rejoint par sa famille en 1961. Donc jusqu'à l'âge de 6 ans, Hakim grandit dans une baraque du bidonville des Pâquerettes, à Nanterre. Avec sa famille, il est ensuite relogé dans ce qu'on appelle une cité de transit, celle des Grands Prés. Ces cités ont été définies par une circulaire en fait, comme des ensembles d'habitations affectés au logement provisoire des familles, occupant à titre précaire, dont l'accès en habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion. Et pour Hakim, le provisoire dure en fait jusqu'en 1986, soit pendant 17 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 23 ans qu'il connaît un logement dans lequel il y a une salle de bain, dont les murs ne sont pas en carton et où les rats ne menacent pas quotidiennement les habitants. Comment expliquer ça ? Par le fait, entre autres, que les catégories de perception qui reposent sur des critères ethno-raciaux se sont diffusées aux acteurs en charge du relogement et aux bailleurs. Ces derniers sont très réticents à accueillir des familles algériennes dans les logements sociaux dont ils ont la charge, et ils se réfugient derrière la croyance qu'une part trop importante de familles algériennes dans un ensemble d'habitations, dans un quartier ou dans une ville, donc en général c'est le seuil de 15% qui est adopté, conduirait à un rejet massif de la part des autres habitants. Par contre, à Champigny, beaucoup plus de logements HLM sont proposés à des habitants portugais. Mais là encore, paradoxe, ces habitants préfèrent, pour une part importante d'entre eux, louer ou construire ailleurs une baraque dans un autre bidonville ou se reloger dans une autre forme d'habitat dégradé. Et les agents préfectoraux qui sont chargés du relogement sont très surpris. Alors qu'ils considéraient les habitants portugais comme sobres, sérieux, dociles, avec des qualités de bâtisseurs, leur perception change et ils se plaignent des caprices des Portugais, des gens qui sont frustres, primaires et insuffisamment assimilés, d'après les termes qu'ils emploient. Ces politiques ont été déterminantes dans la construction des parcours. Alors que Hakim a été exposé pendant plus de 20 ans à une forme dégradée et très stigmatisée de logement, avec un ensemble de discours sur le fait que, en tant qu'adolescent d'origine algérienne, il était en soi un problème, Nestor a vécu de façon isolée, sans beaucoup d'interaction avec les institutions, mais avec l'idée qu'en tant que Portugais, il ne posait pas de problème. Hakim a commencé à travailler jeune pour aider sa famille. Il regrette de ne pas avoir pu continuer ses études et suit de très près ses filles à l'école. Durant notre entretien, Hakim s'est montré très affecté par la continuité des discriminations subies depuis son enfance, qui se sont poursuivies au travail et dans son quotidien. C'est peut-être pour cela qu'il dit ne pas supporter l'injustice. Il s'est syndiqué et il aide également les familles d'Europe de l'Est qui se sont installées dans de nouveaux bidonvilles à Nanterre. Le rapport au passé de Nestor est très différent. Si d'autres enquêtés d'origine portugaise déplorent le fait qu'on les confine au métier du bâtiment et à des positions subalternes, lui considère qu'il a réalisé les aspirations de ses parents en devenant propriétaire en France et au Portugal. Il dit qu'il n'a jamais connu de racisme et il fait attention à se distinguer d'autres origines qui se seraient, dit-il, moins bien assimilées. Nestor est très investi dans la sphère privée familiale. Il dit n'avoir jamais vu l'utilité de demander la nationalité française et de voter. Il ne se montre pas, comme Hakim, très attaché à un lieu en particulier. La dimension locale, et je terminerai là-dessus, constitue en effet un dernier facteur important pour comprendre comment se sont construits les parcours des enfants des bidonvilles. Grandir à Nanterre ou à Champigny a été déterminant parce que ces villes n'ont pas été porteuses des mêmes opportunités de rencontre. À Nanterre, les habitants ont été confrontés à de nombreux acteurs institutionnels, associatifs et militants, tandis qu'à Champigny, ils ont vécu de façon très isolée. Prenons le dernier cas d'Anissa. Anissa naît en Algérie en 1953 et arrive quelques mois plus tard avec sa mère et ses deux sœurs aînées en France, où le père s'est installé en 1949. Elle grandit jusqu'en 1960 dans le bidonville des Pâquerettes, puis la famille est relogée dans une première cité de transit, et en 1962 dans une seconde. Anissa quitte le domicile familial en 1971 pour un premier mariage en Algérie, puis divorce et revient à Nanterre. Comment expliquer qu'Anissa ait accompli des études universitaires, soit aujourd'hui attachée territoriale dans un conseil général, aille beaucoup au théâtre, voyage très fréquemment, alors qu'elle est issue d'un milieu où peu de choses la prédisposaient à cela? C'est que très jeune, elle a bénéficié, avec d'autres enfants et adolescents, de la présence très fréquente et des actions de ceux que j'ai appelés des aidants, c'est-à-dire des personnes extérieures au bidonville, qui sont venues aider les familles, accompagner les enfants dans leurs devoirs ou pour des sorties, qui les ont encouragés à sortir des bidonvilles et de leur milieu. Anissa est également devenue animatrice pour la municipalité de Nanterre. Elle a rencontré à cette époque de nombreux jeunes qui sont devenus des cadres de la mairie. Elle est donc très insérée dans la ville, qu'elle dit adorer et ne pas vouloir quitter. C'est important de noter que ces rencontres ont surtout eu lieu à Nanterre, en raison de la position stratégique de la ville dans la métropole parisienne, de son université, mais aussi en raison de sa visibilité nationale. La guerre d'Algérie a par exemple attiré de nombreux bénévoles et militants à Nanterre. Et cette différence de contexte local est au fondement d'un résultat contre-intuitif. Alors que les enfants d'origine algérienne et marocaine ont été, on l'a vu, davantage discriminés, ils ont en fait vécu des trajectoires plus diversifiées et plus ascendantes que les enfants d'origine portugaise. Ainsi qu'on le voit à travers ces quelques cas, ce travail contribue à montrer que les inégalités sont une affaire à la fois très différenciée selon les individus et à la fois très déterminée par des facteurs structurels qui les dépassent. Elles ont des effets sur les trajectoires, mais aussi sur les manières de s'identifier des individus et sur la façon dont ils perçoivent les injustices passées et contemporaines. Ce sont ces résultats que je souhaiterais à présent valoriser auprès de différents publics par la publication d'un ouvrage auquel ce prix va contribuer. Cela permettra, je l'espère, une réappropriation de mon travail par celles et ceux qui luttent contre les inégalités. Cette recherche sur les devenirs des enfants des bidonvilles montre en effet que des actions locales de soutien aux plus précaires produisent bien des effets de long terme. Grâce à la présence de bénévoles et de militants extérieurs, la précarité, la stigmatisation et la ségrégation ont été un peu moins pesantes pour les enfants des bidonvilles. Certains se sont politisés au contact des militants ou ont vu leur socialisation politique renforcée et ont participé à la lutte pour le relogement des familles des cités de transit. Malheureusement, mon travail montre aussi que, aussi cruciales que ces actions locales soient, elles ne suffisent pas à enrayer la reproduction des inégalités à travers les générations. Les enfants des bidonvilles qui s'en sortent le mieux sont en effet ceux dont les parents avaient le plus de ressources économiques, sociales et culturelles. Parallèlement, on voit qu'à position sociale égale, il subsiste des inégalités liées à l'origine. Le racisme perdure pour les enfants d'Algériens qui ont grandi en France, même lorsqu'ils ont connu des ascensions sociales très fortes. Lorsque l'on écoute leurs histoires individuelles, cette continuité de discrimination est insupportable. Et pourtant, beaucoup d'entre eux se disent avec fierté français, se revendiquent nantériens et continuent à espérer que l'avenir sera meilleur pour leurs enfants. En complément des actions locales et pour lutter contre les causes de l'habitat précaire et ses effets qui sont, on l'a vu, inégalement forts selon la position sociale et l'origine, il faut donc aller vers des transformations plus structurelles de la société.